Bonjour, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Tendance à me plaire, une émission que vous écoutez sur Radio G, sur Fréquence Zik et en podcast sur les plateformes de streaming musical. Alors ce soir, c'est une émission un peu spéciale car nous allons nous transporter dans les années folles, car nous sommes en ce moment même en immersion au cœur du Garry's Bar, un bar clandestin caché dans le centre-ville d'Angers. Alors vous allez découvrir les secrets de ce lieu original et incroyable dans quelques instants avec l'interview des propriétaires de ce bar. Et déjà, on peut vous remercier, messieurs, pour votre accueil chaleureux. Alors, pour l'occasion, nous avons revêtu nos plus beaux costumes de ces années-là et adapté nos chroniques habituelles à ce thème. Alors, Manu nous parlera ainsi de la médecine dans les années 20. Karine nous parlera sous forme de jeu des recettes culinaires de cette époque. Olivier nous parlera des films qui se passent dans les années 20. Nous ne pouvions pas nous passer de Caroline pour cette spéciale. Elle nous parlera de la mode de ces années-là. Et nous retrouverons également Soso pour un Soso show spécial. Et place tout de suite à Bruno pour l'édito.
Tendance à me plaire.
Disons, c'est bien, on a des jingles qui sont comme
bah
ça.
Oui, adaptés forcément. Bah.
Ah. Écoute, donc c'est à moi. Alors ce soir, on est dans le vin, il paraît. Pas celui qui est tiré, hein. Pas celui qui prédit l'avenir. Ça y est, tout le monde là, celui-là.
Pas celui. Encore.
Pas le encore, devin. Non. Non, je ne demande pas pour toi. Je te pose pas la question.
Je pas.
Ah, elle là, elle là. Pas celui qui est vachement beau. Alors, vous l'avez aussi celui-là. Beau. Bovin, voilà, c'est bon. Et pas le Gérard Lan, évidemment. Non, c'est celui d'Angers, hein, l'Ange Vin. Et c'est depuis un bar à vin, entre autres, qu'on parlera ce soir du vin. Enfin, du vin. Des vins, car c'est la décennie qui commence. On est maintenant dans les années 20. Quand la nouvelle génération parlera des années 20, ce ne seront pas les années folles, ou alors pas la même folie. Il y a une décennie qui commence en sortant de la guerre et une autre en y rentrant, c'est super. Bon, on dit les années folles pour les années 20, mais il y avait quand même pas mal de catastrophes aussi. Il y a eu un séisme en 1920 qui a fait 230 000 morts quand même, un petit cyclone qui en a fait 50 000 de plus, un deuxième séisme, allez, 80 000, je vous le remets, et puis Tokyo rajoute 143 000 morts également, un autre séisme. Donc c'est déjà moins foufou les années 20. Alors, les pays ont plus de sous, hein, on a plein de dettes évidemment, mais comme il faut tout reconstruire, eh bien, on a quand même une croissance de 5% en France, donc c'est pas mal, surtout quand les impôts sur le revenu augmentent de 20% d'un coup. Eh ouais, ça fait mal, et aucun gilet jaune dans la rue, mais je vous rappelle qu'à l'époque on vivait en noir et blanc, hein, parce que j'ai vu ça sur les photos évidemment. Bon, on appelle aussi les années 20 les années folles, surtout à Paris, car l'art explose, que ce soit en littérature ou même en peinture. On va d'ailleurs en profiter de l'occasion pour offrir un livre de peinture à nos invités. Regarde ça, hop, j'ai un beau cadeau, tenez, c'est pour vous les invités. Voilà, il n'y a pas que les années 20, il y a plein d'années différentes et vous allez voir donc l'évolution de la peinture, entre autres dans les années 20. Pour les sciences et techniques, bien c'est dans les années 20 que les avions prendront leur envol. Et moi qui en profitera 100 ans plus tard pour en faire un jeu de mots calamiteux. Avion, envol, drôle.
Trop non, drôle.
Okay. Les années 20, ce sont les premiers Jeux Olympiques d'hiver. C'est la musique sans le concours d'Eurovision. Hein. Ça, c'est bon.
Ça n'existe pas.
Ça n'existe pas encore. C'est le cinéma sans le son. Des fois, c'est bien aussi. Et le son qui passe à la radio. C'est aussi la première de Raphaël et Claudine. Hein, leur première émission, mais ça c'est pas sûr.
Ça, c'est pas très gentil.
Non, mais ça c'est pas sûr, c'était peut-être avant. Les années 20, c'est aussi une femme qui danse avec des bananes autour de la taille dans une revue qui s'appelle Nègre.
Ah oui.
Alors Joséphine Baker aurait eu des hashtags bien violents si elle faisait aujourd'hui. Mais bon, la folie, ça va bien 5 minutes. On rappelle que les années 20 se sont terminées avec la crise de 29 et son krach boursier qui n'a rien à envier au subprime. N'empêche que les nouvelles années 20, les nôtres, ne font que commencer et on a tout à réinventer pour un monde meilleur. Alors souhaitons-nous déjà une belle décennie qui aura tendance à nous plaire. Je vous souhaite une bonne émission à tous.
Merci Bruno. Allez, place tout de suite à notre infirmière clandestine Manu qui nous parle de la médecine dans les années 20.
«
J'arrive pas à retenir Sonia. Elle est en.
Qu'est-ce qu'elle
c'est
a
une vraie diablesse. Elle arrête pas de danser. Je suis sûre qu'elle n'attend qu'une chose.
Mais ouais, non, mais vous êtes toutes belles ce soir.
En plus,
là. Vous
c'est
avez
vrai.
Des plumes,
ouais, ouais,
des boas, des colliers de perles.
Peut-être
bravo.
Que Soso, tu pourras nous faire une démo
de danse.
Peut-être, si on est gentil. Alors, dans les années 20, nous passons d'une médecine qui ne connaît pas les causes des maladies à une médecine qui vient de découvrir les microbes et les parasites. On a encore beaucoup de chemin à parcourir. Elle a un nouveau rôle, la médecine de prévention, et elle a aussi un rôle d'assainissement. Par contre, bah, y a toujours autant de morts à cette époque-là. Et oui, c'est une sélection naturelle. Voilà, on est au démarrage de l'anesthésie qui date de 1846 à l'époque. On stérilise les instruments et on fait plus ça dans la cuisine, à l'ancienne, dans la cocotte de Mamie Ginette. Non, 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 maintenant on fait ça dans des vrais stérilisateurs. Quand même, on a progressé. Alors les rhésus ne sont pas encore découverts. Tout le monde sait ce que c'est que le rhésus.
C'est des prises de sang, c'est ça ?
Un petit... Ouais, enfin oui. C'est les phénotypes positifs, négatifs qu'on retrouve dans le sang. Voilà, donc ils ne sont pas encore découverts, d'où la forte mortalité lorsque les gens
sont ils se font transfuser
opérés.
Si ce n'est pas le bon...
Alors la transfusion, on en est au balbutiement, donc voilà. Par contre, c'est le début aussi des anticoagulants qui permettent de ne plus transfuser en direct, parce qu'avant la transfusion, ce n'était pas des petites popoches qu'on remplissait et qu'après, voilà, c'était du direct en fait.
Ah, c'était le cœur de l'hôte qui envoyait le sang dans le premier. Quoi.
Voilà, exactement. Oh. Donc, mais on ne connaissait pas les rhésus donc à l'époque.
Oui, si c'était le mauvais, c'est
poison.
Un peu
d'incompatibilité, ouais. Donc tu mourrais quand même. Hein. Voilà, voilà. Bon, on peut encore mourir d'une infection généralisée, la septicémie, tout le monde connaît, infection du sang, tout comme la gangrène, qui mène soit à la mort, soit à l'amputation. Pas beaucoup d'alternatives.
Oh, c'est gay. Donc,
j'adore comment elle dit ça, tu sais, tranquille.
Tranquille.
Voilà, vous préférez quand je vous parle de sexe bah, pas ce soir.
Il y avait la syphilis aussi.
Oui, alors je ne passerai pas tout en revue, Olivier, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, mais effectivement. Mais alors, il faut savoir quand même que la syphilis existe encore hein, de
oui.
nos jours.
Mais là,
hein,
donc, elle est tuée carrément. Là,
je pourrais en parler pour demain. Oui, là, elle est tuée carrément. Là, elle se contente de rendre fous les gens. Là. Voilà, mais elle existe encore la syphilis.
Hein. Je sais.
Donc protégez-vous mes petits amis. Alors en plus, les médicaments sont pas très très nombreux. Hein. Ce sont surtout des préparations magistrales, c'est-à-dire des mélanges spécifiés par le médecin et que le pharmacien fait à l'unité. Alors pharmacien, je vous en parlerai un petit peu plus tard, vous verrez, c'est cocasse aussi. La petite originalité, c'est que certains médicaments étaient associés à du vin, voilà, pour une plus grande efficacité. On ne sait pas dire si cela tient au bienfait du raisin ou si c'était pour s'assurer de la bonne prise en lien avec des habitudes de consommation, parce qu'à l'époque, on buvait du vin à tous les repas.
Donc en fait, Karine, ouais, tu prends beaucoup de médocs, toi.
Bah justement, aucun. Je me soigne comment.
Que le vin, ça sent les médocs.
Alors, jour, normalement, coup, les fruits avec le vin.
Ouais, alors normalement, le pharmacien, il rajoute des molécules quand même. Hein, on ne sait pas trop dire si elles sont actives ou pas.
Tu connais, Manu, j'aime bien les produits que naturels.
Effectivement. Alors, on prescrivait aussi beaucoup de cures thermales, hein, parce que finalement, c'était peut-être un petit peu le seul moyen de soigner les gens. Alors, les seuls vaccins découverts à l'époque sont ceux de Pasteur et Koch. On vaccine contre la rage et la variole, mais pas encore contre les grandes épidémies, comme la grippe espagnole, qui a fait 21 millions de morts. Alors quand on a une fièvre brutale, mal à la tête, une toux sèche et le nez qui coule, bah faut prier pour que cela ne s'attaque pas au cœur et aux poumons. Voilà. Voilà, voilà.
Ah, ça donne envie, hein.
Je vous parle de la fièvre jaune parce que c'est hyper intéressant. C'est une autre épidémie assez terrifiante. Alors, 3 jours de frissons, douleur, hémorragie, fièvre, visage congestionné et vomissement. Puis, bah, visage jaune, vomissement de sang noir, convulsions et prostration. Tout cela est fort sympathique, hein, n'est-ce pas ? Je vois que nos invités sont bouche bée. Bon, alors, de toute façon, la médecine, c'est considéré comme un art pour lequel les médecins ne sont rémunérés que toutes les périodes. Alors, soit en mois, soit en année. Voilà, 2 catégories de médecins se distinguent. Il y a les médecins normaux, et c'est une vraie appellation, et le médecin mondain. Ouais, voilà. Donc, c'est pas forcément fiable d'ailleurs, hein, le médecin mondain. C'est parce qu'il a des copains, surtout.
Et de l'argent, en fait, c'est ça ? T'as
oui.
pas d'argent, tu
claps. Bah, déjà, le médecin, il est assez pauvre à cette époque-là, hein, quand même. Donc, oui, effectivement, si tu fais partie des plus riches, t'as les chances de tomber sur un médecin, mais si c'est un médecin mondain, t'es pas garanti qu'il ait une formation non plus. Donc,
ah, c'est pas mal, t'as juste le titre, en fait.
Voilà, exactement. On s'autoproclame un peu, quand même. Hein. Dans les colonies, il y a 2 sortes de médecins qui cohabitent. Les missionnaires et les médecins militaires du corps de santé. Alors eux, ils reçoivent une vraie formation quand même. Les premiers sont un peu à la bourre côté connaissance, hein, puisque c'est des missionnaires. Ils se servent de la médecine comme d'un instrument d'évangélisation. Les seconds, eux, ont choisi l'aventure en s'engageant pour 10 années dans l'armée. Voilà, enfin, c'est plus par goût du voyage hein, quand même. Alors, quant aux pharmaciens, ils sont appelés des rabatteurs, en fait. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne pratiquent pas la pharmacopée, en fait. Eux, ils exercent n'importe quelle profession. Voilà, ils peuvent être, je ne sais pas, couvreurs, etc., etc. Et ils vous amènent voir un médecin. Voilà, ils ont cette fonction-là. Ah, alors souvent, on trouve les herboristes plutôt à l'époque, donc pas vraiment des pharmaciens
alors,
à proprement parler.
Qui fait les médicaments faits par les médecins alors
Souvent les herboristes justement, d'accord, qui eux ont une pratique des plantes. C'est pas le pharmacien à proprement parler. Il n'y a pas de formation encore tout à fait à cette époque-là. C'est pas vraiment réglementé.
Mais tu as une formation pour les herboristeries
Oui, par contre, oui. Ouais. Alors, quant aux pharmaciens rebouteux, bah, ce sont des bonimenteurs, voilà, ça n'a pas pris une ride. Alors, ils ne sont pas forcément bonimenteurs, mais les rebouteux, on n'y croit pas, enfin voilà. Ça existe encore. Alors, dans la trousse du médecin, on trouve de la codéine, qui est un narcotique utilisé comme analgésique. Alors, il n'est pas aussi puissant que les autres opiacés comme la morphine ou l'héroïne, mais il entraîne quand même une accoutumance s'il est consommé pendant longtemps. Il sera utilisé pour des douleurs modérées plutôt que pour des douleurs aussi aiguës que la chirurgie.
Mais on l'utilise encore aujourd'hui ?
Ah oui, on l'utilise encore aujourd'hui. Il y a aussi de la morphine, qui est un narcotique analgésique dérivé de l'opium. On l'utilise beaucoup. À la limite, c'est presque même les seuls médicaments que tu trouves à cette époque-là quand même. Voilà. Alors, on l'utilise, la morphine, pour soulager les douleurs intenses comme celles de la chirurgie. Voilà, elle peut être utilisée en injection ou prise oralement. Les surdoses sont dangereuses, mais comme aujourd'hui. Et la morphine entraîne rapidement l'accoutumance. Alors, on l'a vu notamment au moment de la guerre 14-18. Il y a beaucoup de soldats, qu'on appelait les gueules cassées notamment, qui après sont devenus très, très dépendants de la morphine. On trouve aussi du phénobarbital, qui est un barbiturique sédatif. Donc, c'était un des premiers traitements qu'on trouvait.
On est en train de perdre les auditeurs un par un. Ils meurent tous, là, je les vois.
Bah
là,
ouais, mais je suis désolée. Hein, voilà, c'était
c'est
ça
super
à l'époque.
C'est intéressant, mais ça fait mourir, quoi.
Bah, ça fait mourir, je suis désolée. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de réjouissant? Bah, pas grand-chose. Je suis désolée. Voilà. Bon, il y a la quinine. Voilà, c'est le seul médicament contre la malaria dans les années 20. Ça, c'est pareil, c'est super réjouissant.
Ouais.
Il est donc impératif d'en emporter si on se déplace dans des pays à risque. Et puis sinon, bah si, c'était souvent des petites boîtes de granules. Le prix, c'était de 3 à 6 francs. Et puis souvent, elles étaient les excipients qu'on connaît aujourd'hui. C'était à l'époque des boules de sucre cachant le médicament. Ou alors, on prenait ça dans un verre de vin. Sinon, il y avait le médicament bouteille de vin de caféine qui était à 8 francs. C'était marqué dessus tonifiant et il y avait 20 doses dedans. C'était génial. Et le flacon de poudre laxative de Vichy du docteur Léonce Soulignoux.
Donc, je vois à quoi ça sert. C'est bon.
Et oui, et oui. Ouais, vous voulez que je vous explique ?
Non, c'est bon.
D'accord. Donc là, il y avait 25 doses pour 2,50 francs à l'époque. Sinon, on a la boîte de poudre fumigatoire mentholée anti-asthme bengalais de la pharmacie Fagard à 2,50 francs. Et la bouteille d'élixir sédatif digestif des laboratoires UD. Alors, dedans, on trouvait quoi ? De la cocaïne et de la Pepsi. Pour 8 francs.
D'accord.
C'est ça. Écoute,
bah voilà, pas les années 20 en fait.
Termine quand même sur une année, sur
c'est
une
ça.
Petite c'est note
vrai.
Positive.
T'es prête à ouvrir ta petite pharmacie clandestine un peu spécialisée.
Voilà, si je peux tenir une permanence. voilà. Alors, vu les substances qui sont précédemment nommées, je ne suis pas sûre qu'ils soient fan quand même
c'est ça.
De ce côté-là. Voilà, bah, moi j'aime bien vivre quand même dans les années 2020.
Ouais. Hein. Et dans les années 20, mais maintenant. Quoi.
Oui, mais maintenant quand même. Hein. Je trouve qu'on a vachement de chance.
Merci Manu, et bien place à notre... Alors, merci Manu, place désormais à nos invités du jour.
C'est l'heure de l'invité.
Alors, nous avons l'habitude de recevoir nos invités en plateau, mais aujourd'hui c'est l'inverse. C'est nous qui sommes invités dans le bar dit clandestin, le Garry's Bar, un magnifique lieu feutré, décoré avec soin, en plein cœur du centre-ville d'Angers. Alors, on ne peut pas vous dire précisément où se trouve cet endroit, hein, c'est le jeu, mais on s'y sent très très bien. Alors, imaginez, nous sommes en 1920, la prohibition entrave la consommation d'alcool, et pour déguster vos cocktails préférés, eh bien, vous n'avez pas le choix, vous devez trouver un bar caché, un bar clandestin. Alors, Stéphane, Nicolas et François, donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Comment est né le projet d'ouvrir ce lieu? Bonjour à tous les trois.
Bonjour. L'idée du speakeasy, on l'a eu tous les trois. Si vous voulez, moi, François, j'ai travaillé dans le bar. Ça fait 11 ans que je suis dans le bar. Mes frères sont dans la restauration depuis à peu près le même nombre d'années aussi. On a vu différents établissements et travaillé avec différentes personnes qui, moi, m'ont amené à voir pour la première fois un speakeasy à Paris.
Alors, qu'est-ce que c'est un speakeasy, en fait ? Expliquez-nous.
Alors, le speakeasy, c'est un terme qui désignait les bars cachés des années 20 aux États-Unis. Pendant la prohibition, en fait, on cachait les bars dans des arrière-boutiques ou des caves et les gens pouvaient boire de l'alcool frelaté pour la plupart. Et le cocktail est né là-dedans, parce que l'idée c'était de cacher de l'alcool dans d'autres boissons, et donc faire des mélanges. Et beaucoup de cocktails ont été créés comme ça.
D'accord. Et du coup, vous en avez parlé entre vous et vous avez construit ce projet. Ça met du temps, hein, j'imagine, pour construire un tel bar.
Oui, tout à fait. Bonsoir, moi c'est Nicolas. Le petit frère, le plus petit de la fratrie des trois. Ça s'est fait finalement très rapidement, mais avec beaucoup de concentration. Voilà, on a eu la chance d'avoir notre papa qui a fait tous les travaux. On a commencé à chercher en mars 2019. On a signé en fin de mois. Et ensuite, avec l'accord des banques, tout ça, enfin, vous connaissez les papiers, on a commencé les travaux en juillet. Donc en juillet, à partir de juillet, on a vraiment commencé, on s'est mis à fond dedans. Et on a eu, avec énormément de fournisseurs, tout ça, on a bien avancé. Et on a ouvert le 12 octobre officieusement, oui, avec la famille, les amis, ceux qui avaient participé à l'événement, et officiellement le 16 octobre, voilà, mercredi.
Donc c'est une véritable histoire familiale.
Exactement.
Donc vous aviez déjà travaillé ensemble, en fait, vous trois, ou c'était la première fois
Alors, on a travaillé ensemble. Moi, j'ai travaillé à Paris avec Nicolas. Stéphane a travaillé avec Nicolas, mais moi, j'avais pas encore travaillé avec Stéphane. J'ai commencé à travailler avec lui quand on est revenu sur Angers en 2018, où on a ouvert le restaurant Le Gustave, tous les deux. Et non, c'était la première fois. Mais concrètement, on savait de quoi on était capable, en tout cas.
Alors, ce lieu est-il vraiment clandestin ?
Aujourd'hui, on peut pas dire aujourd'hui qu'on peut être clandestin. On essaie de faire vivre aux gens cette idée-là de bar clandestin de l'époque. Avec aujourd'hui, on a la chance d'avoir une belle gamme de produits où on peut, voilà, les cocktails sont beaucoup mieux travaillés. Mais dans l'idée, voilà.
Donc ce bar reste légal, hein, forcément.
Tout à fait. Ouais.
Alors les gens se posent beaucoup de questions. Alors comment fait-on pour trouver et rentrer dans ce lieu? Allez.
Ouais. L'idée du bar, c'est de trouver le site. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui nous facilitent énormément. Enfin, facilité, on peut dire ça, oui. On peut moins le cacher avec les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, on en a besoin pour communiquer aux gens. On a énormément de jeunes. On peut le trouver sur les réseaux sociaux et du bouche à oreille beaucoup aussi qui sont invités par les amis par exemple qui ont trouvé eux le bar suite à l'inscription du site sur le site internet.
C'est ça.
Qu'ils l'ont trouvé soit par les petites cartes que nous on a pu donner ou les pubs qu'on a pu faire dans les journaux locaux. Et sur les réseaux sociaux.
Voilà, dans l'idée, ce qui est un peu compliqué avec cet établissement-là, c'est qu'il faut faire de la communication sur un endroit qui devrait rester caché, entre guillemets.
Oui, c'est ça, il faut rester mystérieux aussi. Hein.
Ouais, du coup, on a un site internet, donc, comme disait mon frère, où les gens s'inscrivent directement, où ils rentrent leur nom, leur prénom, leur adresse mail et leur numéro de téléphone. Ensuite, ils sont inscrits sur notre base de données à nous, sur notre site. Automatiquement ils reçoivent un mail avec l'adresse et le digicode. L'idée c'est que voilà, on évite de trop en parler pour garder cet esprit un peu caché, mais il suffit de nous contacter, on donne très facilement le site. Alors je sais pas si on va le donner directement là
à l'antenne, mais
alors le site internet c'est www.garys.com.
Alors, ce qui est atypique, mais aussi charmant, c'est que vous portez des costumes de l'époque. Hein. Alors, est-ce qu'on peut le décrire un peu à l'antenne? Est-ce qu'on peut décrire ce que vous portez?
Alors, j'y vais. Dans l'idée, oui, c'est dans le style très, très londonien, donc des costumes en laine assez chauds.
En tweed aussi. En tweed,
en tweed, ouais. Aussi, ouais.
En tweed, c'est des costumes assez chauds.
Notre spécialiste mode,
oui,
peut-être,
voilà,
un petit avis à donner.
Oui.
Voilà. C'est du tweed, je ne me suis pas trompé, donc
oui, ouais,
c'est bien,
c'est
ça.
Ouais.
Et des casquettes
donc,
également.
Oui, exactement, ouais, des casquettes. Donc, c'est un petit magasin en dessous de Londres. Je pourrais pas vous dire exactement l'endroit. Mais voilà, on les a trouvés. Après, malheureusement, en France, on a encore du mal à faire des aussi beaux costumes que des costumes anglais. Parce que voilà, on a essayé de vraiment pousser la chose à son apogée, à son maximum. Donc voilà, on a trois couleurs différentes. On a un peu plus de couleur roi du côté de Stéphane, voilà, avec le côté communication, on pourrait dire, si on peut sélectionner la couleur par son métier. Le barman un peu plus clair, bon, même si c'est pas forcément pratique derrière le bar. Et puis moi, voilà, le côté marron, le marron très anglais, voilà, exactement.
Et alors, quand on est client, faut-il obligatoirement porter aussi le costume ou un accessoire? On se pose beaucoup de questions autour de ça.
Alors, on n'oblige pas les clients. On conseille de venir habiller comme ça. Déjà, c'est le seul endroit à Angers où on peut venir habiller comme ça sans être regardé un peu de travers. Puis c'est amusant,
c'est
quand
sympa,
même de s'habiller à cette mode-là.
Ouais.
Oui, c'est ça. On ne peut pas obliger les gens tout simplement parce que je prends souvent le schéma de quelqu'un qui sort du travail, qui n'a pas forcément envie de rentrer chez lui pour aller changer et venir directement au bar, c'est toujours un peu compliqué. Après, les sorties entre amis, c'est vrai que c'est mieux et puis ça se fond vraiment dans l'endroit. Donc on conseille les gens quand même.
Alors on garde une part de mystère, mais est-ce que vous pouvez nous parler de la décoration également, en nous parlant du décor, des accessoires, du mobilier? Comment vous l'avez travaillé, ce décor?
Alors le décor, il a mis 3 mois à s'organiser. C'est pour ma part, c'était mon travail dans l'établissement de chercher un maximum d'objets anciens qui faisaient référence au maximum aux années 20. Donc j'ai mis 3 mois, voilà, à tout trouver. Je suis resté que dans la région, donc du côté aussi de Nantes, Saumur, Le Mans. Voilà, j'ai cherché un peu partout sur Le Bon Coin, les réseaux sociaux quelques-uns, beaucoup aussi les brocantes, les vide-greniers, Emmaüs aussi énormément,
oui,
qui nous ont beaucoup aidés, Emmaüs d'Angers, de Cholet, de Nantes. C'est vraiment des belles pièces. La pièce unique chez soi, je sais pas si c'est la meilleure idée, mais voilà, dans un bar années 20, ça fait vraiment son petit effet et les gens sont très agréablement surpris à chaque fois.
Effectivement, c'est très beau. Parlez-nous des cocktails que vous proposez également. C'est une de vos spécialités, forcément.
Alors, les cocktails, c'est ma partie. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans le bar, donc je me suis organisé pour faire toute la carte. On a une carte de 10 cocktails qui change à peu près tous les 3-4 mois. Et sinon, à part ça, parce que bon, les cocktails, c'est notre cheval de bataille, mais on a beaucoup de spiritueux aussi, dont 57 whisky, j'ai 23 rhum et 13 gin. Pareil, qui change tous les 3 mois à peu près, parce qu'on renouvelle la carte. Et sinon, ici, on a deux barman qui sont très doués dans ce qu'ils font, qui eux maintenant, je leur ai laissé un peu les devants. C'est eux qui refont les cartes maintenant avec des cocktails un petit peu plus poussés. Même on va essayer d'améliorer en fait la carte sur tout le long de l'année.
D'accord. Alors, vous avez également une scène. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui s'y produit? Pouvez-vous nous parler des animations que vous proposez? C'est ce qui fait aussi l'originalité du bar.
Moi, c'est Stéphane, voilà, je m'occupe surtout des animations. Donc, les animations, on ne parle jamais des animations, on dit toujours hier il y avait.
Pardon.
Et jamais demain. Et on dit, ouais, pardon. Hier il y avait, et jamais demain il y aura. Sauf le mercredi, on fait des événements pour garder ce petit effet de surprise tous les soirs. Et voilà, tout simplement.
D'accord. Mais on peut en citer quelques-uns?
Oui, alors il y a un peu de théâtre, il y a un peu de. Il y a un tireur de chaussures qui vient de temps en temps, barbier, tatoueur. Il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a du violon, du piano, du transformiste de temps en temps.
Un mentaliste bientôt.
Mentaliste et magicien qui est là demain soir.
Ouais.
Mercredi, pardon, tous les mois de janvier.
Qui était là l'autre jour.
Tous les mercredis au mois de janvier, il sera là. Là, on le communique. Tous les mercredis, on communiquera nos événements.
Et du coup, vous travaillez avec des commerçants partenaires en fait?
Oui, des commerçants partenaires qui viennent faire des activités. Et c'est un échange entre les commerçants et nous-mêmes pour qu'ils fassent leur com, entre guillemets, dans notre lieu. Donc, par exemple, le sireur de chaussures chez Monsieur ou la maquilleuse professionnelle Linda. J'ai plus le nom de sa boutique. voilà, il y en a pas mal. Après, je peux pas tous les citer parce que c'est compliqué et ça change toutes les semaines.
Il faut
trouver beaucoup de personnes pour faire ça.
En tout cas, déjà, il y a plein d'idées. Ça fourmille d'animation et c'est un endroit vraiment... magnifique à découvrir. On aurait 10 000 questions à vous poser, mais malheureusement, le temps nous est compté. Une toute dernière question. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce projet, dans votre métier? Si vous aviez un mot pour décrire ce qui vous plaît.
La restauration, de manière générale, on en fait parce qu'on est... On aime le partage. Je pense que le partage, c'est le mot qui caractérise le plus la restauration. N'importe qui travaille dedans, je pense que c'est ça qui nous fait vivre un petit peu. On a la chance d'être trois frères à aimer ça, donc, et on a la même vision des choses. Donc ça nous fait avancer. Je pense que le partage, c'est un bon mot pour caractériser ça.
Très bien. Le partage, j'aurais dit aussi la créativité. Je pensais que tu allais le dire, parce que le côté bar est quand même indispensable dans le bar. La créativité, c'est vraiment le côté qui fait que voilà, ça devient unique. Et le contact humain qui est indispensable aussi, toujours avec le sourire, la gentillesse. C'est là où c'est vraiment l'esprit du lieu et ça peut faire naître plein de belles choses derrière. Et je trouve que c'est très important.
Et vous? Moi, c'est plus la folie, la fête et toujours la bonne humeur. Et c'est important, et tout simplement.
Eh bien, merci en tout cas encore une fois de votre accueil. Alors, si vous aussi, chers auditeurs, souhaitez découvrir ce lieu incroyable, rendez-vous sur le site du Garry's Bar. Mais une règle d'or pour préserver l'ambiance et la surprise, le mystère, une chose, restez discret. Alors, il est temps de jouer avec celle qui pourrait avoir un petit cabaret à son nom, notre Soso. Très belle ce soir avec son boa, voici le Soso Show.
Waouh, chatte.
T'as vu ta musique à toi.
Très bien. Bonsoir à tous. Eh bien, ce soir, effectivement, une fois n'est pas coutume, nous revisitons, comme disait Bruno, les années 20. Eh bien non, justement, pas 2020, mais bien 1920 avec les années folles. Alors, ce soir, je vous propose un petit kikéné qui a un peu dérapé. Je suis désolée, les sites ne sont plus fiables, les sites internet, je veux dire. Ils me racontent n'importe quoi, donc ce sera un petit peu découpé, j'en suis désolée.
Je peux raconter ?
Tu peux raconter.
Oui, les coulisses.
Alors, Soso prépare son Soso Show, donc la veille, bien sûr, au dernier moment.
Bien sûr. Voilà,
tout sûr. Hein. Donc, elle m'envoie tous les sons pour que je puisse les monter, voilà. Alors, moi, comme d'habitude, j'attends, parce que généralement, ça plante à un moment donné, elle se dit, c'est plus ça, machin. Et ce matin, je ouvre mon mail et je regarde, elle me dit, oh là, je me suis planté, c'est pas le bon site, c'était pas les bonnes années, j'en ai marre.
C'est-à-dire que le site m'a indiqué plein de noms de personnes qui étaient nées entre guillemets, soi-disant 1920, donc je fais ma chronique, je prépare mes musiques, et comme je veux aller toujours un petit peu plus loin, je revérifie la période de naissance et de décès pour en dire quelque chose, et là, sur mes 6 kikénés, il y en avait 3 qui étaient complètement faux.
Oui, mais t'as peut-être demandé les années 20, et ça se trouve, ils sont nés dans les années 20.
1920, c'était bien précisé, j'avais la date, avec l'année de naissance qui ne correspond à rien du tout. Alors, ce site-là, je peux vous dire, jamais j'y remettrai les pieds, puisque c'est ça. Donc, ce sera un petit peu assuré ce soir, j'en suis désolée, mais on fera quand même avec.
Mais non, c'est très bien.
C'est vrai. Allez, on y va pour le kikéné de 1920.
Donc, en fait, c'est quoi? C'est des extraits sonores, il faut essayer de trouver la personne en question.
Et il faut essayer de trouver la personnalité qui se rattache à cet indice.
Le Soso Show.
Je veux ton avis, toi qui connais bien la vie. Qu'est-ce qui se passerait si, à la stupeur de l'épiscopat, le pape Pie était papa?
Mon ami, à mon avis, c'est une question MP. Mais je ne la fuirais pas si le pape était papa. Son papa serait papy.
France d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés.
Bienvenue à Galassiga.
Alors moi,
Était minuit et demi hier soir, je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que j'ai pu.
On est deux.
Moi, j'ai peut-être le premier. C'était un pape, le premier, mais lequel?
Le pape François.
Alors, lequel pape? Effectivement, il s'agit d'un pape. Mais lequel?
Benoît XVI.
Jean-Paul
II.
Caro.
Jean-Paul II.
Qui c'est qu'on a
1920,
les invités, ce serait quel pape?
Il
est né en 1920.
Alors, si je vous dis Carole Wojtyla, vous me dites
Jean-Paul II.
C'est Jean-Paul II, ça.
Ouais. Jean-Paul II, effectivement, est né en 1920. J'ai vérifié, c'est bien vrai.
D'accord. Donc, ça, c'est le premier.
Ensuite.
Le deuxième, c'est Georges Marchais.
Oui, bon, c'était facile, mais je trouvais cet extrait extraordinaire. Je retrouvais, parce que je devais être assez jeune à l'époque de Georges Marchais. Et du coup, je le trouvais assez extraordinaire. Enfin, c'est théâtral, quoi. Et cet extrait, il m'a fait rire. Je me suis dit, allez, je mets ça. C'est ça vrai. Va nous donner de l'ambiance un petit peu. Il laissait à peine la place aux personnes qui l'interviewaient de parler. Enfin, c'était vraiment très drôle. Voilà, c'était une époque.
Il nous manque.
Ensuite.
Non, mais.
Il nous manque. Ah oui, pardon.
S'il nous regarde.
S'il nous regarde.
Dans le côté rampe de
Georges. Ah oui, oui, mais c'était assez extraordinaire. Ah,
le Parti communiste est moins drôle maintenant, ça je confirme.
C'est ça, oui. Voilà. C'est moins fun.
C'est moins fun.
Ensuite, il y avait Viens nous voir à.
Ah oui, les bronzés.
Agada Swinga.
Mais alors, les bronzés, ce serait qui? Qui est alors, un réalisateur peut-être
ou Thierry Lhermitte.
Un acteur.
Alors, ça bon, me fait 1920. Penser à quoi, effectivement? On va aller par.
1920. Le Club Med, le départ du Club Med.
Le Club Med, et donc qui a créé le Club Med?
Trigano. Monsieur Med.
Effectivement, donc Med. Gilbert Trigano, donc est né en 1920, c'est lui le créateur des Club Med, des Crazy Signs, d'où a découlé ensuite les bronzés au soleil, d'accord. Ou les bronzés tout court, les bronzés tout court. Et puis le dernier, alors là effectivement,
alors,
je suis allée chercher très loin, je suis désolée, mais j'étais épuisée hier soir, c'est tout ce qui m'est venu.
Alors, 10 commandements.
Alors, vous avez reconnu les 10 commandements.
Alors, c'est pas un pape. Il
Chouraki.
Alors, oh non, 1920, les enfants. Bon, on se détache de la chanson, mais on va un petit peu plus loin. Il y a eu un film aussi.
Les 10 commandements.
Ah, c'est un des acteurs de.
Un des acteurs des 10 commandements.
Les 10 commandements.
Alors, ah ouais.
Le pharaon, est-ce que quelqu'un se souvient?
Michael Youn.
Yul Brunner, bravo. Et alors, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il était. Sa sépulture était. Enfin, sa tombe était en France, en Touraine.
Je sais pas.
Eh ben moi non plus, j'ai découvert. Peut-être que c'est une fake news, j'en sais rien.
Mais attention à ton site.
Bon, écoutez, c'est un 10 sur 10. Félicitations. Ouais. Ensuite, ce ne sera plus un kikéné, mais ce sera une info, enfin un événement, enfin
voilà,
qui s'est
passé
en 1920. Voilà, quelque chose d'important. On en parle tout de suite après les indices.
Le so-so show.
Je ne veux pas d'enfants, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mes joues, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfants.
Vous pouvez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule. Vous ne seriez pas là à me casser les pieds.
Juste au mauvais moment, une poussière d'ange t'est tombée dedans. Tu ferais une super maman.
Le so-so show.
Alors les questions de...
Un seul événement.
D'enfant, de maman, ça parle de maman.
De femme, droit des femmes.
Ouais. Alors là on est vraiment sur... Justement, on parle d'enfants. Je veux pas d'enfants. On parle de la pilule.
Ah, la contraception.
On parle éventuellement de l'avortement de également.
La ah, l'avortement. Oui.
Alors, non. Donc dans
ah les le droit
alors,
des femmes.
Alors ça concerne les femmes effectivement, mais les pauvres là, 1920.
Ouais, il n'y avait pas trop de droits.
L'après-guerre. Et c'est surtout qu'après-guerre, ah. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, il y a un problème. Ben, non, justement, c'est qu'il y a eu problème de nombreuses personnes tuées lors de cette Première Guerre mondiale.
Il fallait refaire les couples.
Ah, il fallait refaire un petit peu la natalité française. Donc effectivement,
est arrivée.
La troisième.
Caro.
La Troisième République donc, a développé un arsenal répressif pour lutter justement à cette époque-là contre l'avortement et la contraception. Donc, ces lois reflètent la difficile émancipation à l'époque des femmes et la faible influence des mouvements féministes après cette Première Guerre mondiale, puisqu'effectivement, eh bien, il va falloir repeupler la France. Elle a effectivement un impérieux besoin d'augmenter sa natalité. Et donc, à cette époque-là, le 31 juillet 1920, une loi nataliste donc, va réprimer la provocation à l'avortement ainsi que la propagande anticonceptionnelle, et donc ce qui est interdit de fait, donc la publicité et la vente de moyens de contraception. Donc à l'époque, hein, c'est répressible, il y a emprisonnement, des amendes assez importantes, et pour autant, eh bien, on se rend compte que du coup, le taux de natalité ne va pas augmenter pour autant, malgré ces différentes répressions. Et ce qu'on va retrouver également à cette époque-là...
Alors, il y a
va...
Manu qui veut dire quelque chose.
Non, non, mais je voudrais dire que vu l'efficacité des traitements, de toute façon, on peut douter de la contraception à cette époque-là.
Enfin, c'est possible.
Je veux dire, raisonnablement, vu que les médicaments sont pris avec du vin, oui. Que c'est des élixirs de machin, la contraception, moi, je n'aurais pas cru une seconde.
Je suis sûre que tout ce qui est à base de vin, ça marche.
Voilà.
Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'hommes non plus.
Oui,
à l'époque,
mais
il y avait beaucoup moins d'hommes.
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'hommes.
Oui,
mais
bon.
Mais...
Oui, mais les femmes, elles seraient
Les femmes, elles servaient qu'à ça, dit Caro.
C'est-à-dire les conditions des femmes, elles étaient terribles avant la guerre et après la guerre. Donc de toute façon, elles étaient vouées à faire des enfants.
Oui, oui, mais justement, parce que c'était compliqué, l'avortement reste quand même assez important malgré toutes ces répressions. Et du coup, c'est ce qu'ils évoquent, c'est que du coup, sur cette période, malgré toute cette répression, ben, voilà, le taux de natalité ne va pas augmenter pour autant. Et il va y avoir également, ils parlent des théories anglo-saxonnes sur le contrôle des naissances, puisqu'on ne peut pas prendre la pilule. Effectivement, peut-être que ce n'était déjà pas exceptionnel, mais il y a également la méthode O-gino.
Ah oui,
avec la température.
Voilà.
Ça existe toujours, ça.
Ça existe toujours.
Ça existe toujours, mais je connaissais pas le terme. Ah. Donc voilà, excusez-moi. Ouais. Méthode O-gino, on en apprend tous les jours, effectivement, même pour une femme. Oui.
Parce qu'en soi, un homme peut faire 9 enfants d'un coup, contrairement à une femme qui peut pas porter 9 enfants d'un coup.
Donc en tout cas, voilà, à cette époque-là, ça s'est développé. Et puis, ce qu'il faut dire quand même après, au-delà de ça, c'est voilà. Mais oui, c'est pas tout à fait voilà. Donc il faudra attendre en tout cas les lois Neuwirth de 67, hein, décembre 67, qui autorise l'usage des contraceptifs. Donc c'est voilà. Et ensuite la loi avec Simone Veil en 75, hein, qui va rendre légitime en tout cas la dépénalisation de l'avortement. Voilà notre histoire à nous les femmes en 1920. Et c'était tout
merci
pour ce
Soso.
Soir.
Eh bien, merci Soso. Alors, dans la suite de l'émission, on parlera de recettes culinaires. Bruno, qui nous parle d'habitude de nouvelles technologies, a également adapté sa chronique pour l'occasion. Surprise tout à l'heure. Alors, la mode de ces années-là est très spéciale, hein, très chic et bien identifiée. On en parle tout de suite avec notre spécialiste Caroline.
À la Bastille, on aime bien il faut chien. Elle est si gentille qu'on aime bien Lilipo de chien à la Bastille.
Alors déjà, Caro, est-ce qu'on est bien habillé ce soir? Est-ce que c'est vraiment année 20?
Oui, bonsoir à tous.
Bonsoir Caro.
Alors oui, je suis particulièrement contente de cette émission. Vous imaginez bien, puisqu'il y a trois gentlemen en plus à la table. Et en plus, ils sont en costume, donc ça fait du bien comparé à d'habitude.
À d'habitude.
Oui.
J'ai pas un t-shirt Star Wars, ça te change.
Non,
c'est
mais ça te va beaucoup mieux.
Ouais.
On est d'accord.
C'est vrai que ça te va bien, Bruno.
C'est quand même un autre homme.
J'ai juste une remarque. La chemise froissée.
C'est pas repassée.
C'est Styles, non?
Non. Alors c'est Styles peut-être là maintenant.
Hein, c'est les années 20. Hein. Voilà.
Ouais, mais là, un peu too much.
Tu vas à la mine.
Ne le défendez pas, s'il vous plaît.
Oh là, je fais un effort, les filles.
Non, mais il y a un petit pas. Ouais, on sent qu'on est en 2020, il y a un petit renouveau. Ouais. Et je t'aime bien.
C'est un petit pas pour Bruno, mais un petit pas aussi pour l'humanité. Hein.
C'est
franchement,
ça.
C'est pas rendu service aux gens.
Caro, juste avant de venir, elle me dit: est-ce que tu as une chemise? J'ai dit: tu te fous de ma gueule.
J'ai essayé de croiser et une. Ouais.
Tu m'aurais dit ça, j'aurais repassé. Quoi,
mais c'est mieux que rien.
C'est mieux
que le t-shirt. De toute façon, il
n'y
a pas de t-shirt.
Oui, t'as une pape. Non, mais on salue l'effort, hein, Bruno, quand même. D'ailleurs, on ne parle que de toi.
Oui,
c'est vrai.
Ça montre bien qu'on salue l'effort, quand même.
Et belle casquette aussi. Bon. Alors, je suis d'autant plus ravie que les années 20, en termes de mode, c'est hyper riche. C'est une de mes périodes préférées, donc c'est parfait. On est dans un cadre splendide, on est dans l'ambiance de l'époque. Et pourquoi? Alors, c'est une période hyper intéressante car c'est une période de fête et de faste. Donc, après la Première Guerre, comme vous l'avez dit, il y a une forte croissance économique. Après des années hyper difficiles au Royaume-Uni comme en France, on va se tourner vers des choses un peu plus légères. Donc, la culture, la musique, les fêtes et donc la mode va suivre tout ce mouvement des années folles jusqu'en 29. Donc on va trouver beaucoup de clinquants, de coiffures très travaillées, de maquillage appuyé, des bijoux pour les femmes et pour les hommes, on est apprêté de la tête aux pieds. Voilà. Donc visuellement, c'est un petit peu autre chose que le jogging Adidas et le t-shirt de foot avec Messi derrière. Quoi.
Que tu nous as conseillé dans une précédente
jamais
émission.
De la
moi
vie.
Je dis rien.
Oh, si. Jamais de la vie.
Si,
ne
si,
faites,
les trois bandes Adidas.
Pas ça.
Les trois, tu l'as dit. Les trois bandes Adidas,
oui,
tu l'as.
Alors les trois bandes, ouais, non, mais dans un cadre particulier, tu vois. Mais quand tu sors de chez toi en jogging avec le t-shirt de foot, c'est que t'es passé à côté de quelque chose dans ta vie, quoi. donc c'est vraiment autre chose. Et je suis très contente parce que nos trois invités
c'est
sont
vrai,
vraiment superbes.
Vrai là,
alors on
j'avoue.
A du carreau, du prince de Galles et tout, c'est magnifique, là, je suis aux anges. Alors, on va s'inspirer de figures emblématiques comme Josephine Baker, hein, tu en as parlé Bruno, Miss Tinguette, mais aussi des actrices anglaises comme Jessie Matthews, dans des lieux comme Montmartre, hein, les lieux d'intellect, de spectacle, mais aussi Montparnasse. Et je vais commencer par le vestiaire féminin. Alors, il est hyper riche. Hein. Donc, dans les années 20, c'est avant tout l'ouverture à l'exotisme, comme Josephine Baker. Donc, avec une certaine limite, hein, parce qu'il y avait une forme de divertissement un peu malsain derrière tout ça, hein, mais on va zapper ça.
Elle était un peu frivole, hein, quand même, Josephine.
Bah, un petit peu, et puis surtout, c'était un public très blanc qui se chargeait de regarder, donc c'était un petit peu bizarre quand même. Donc, on va retrouver tout ça dans les vêtements, mais surtout dans la déco d'intérieur, parce que c'est la pleine période du style art déco. Donc, on retrouve quoi ? Des petits palmiers, des oiseaux,
oh
des
non,
plumes.
C'est vrai déjà à l'époque.
Ah bah oui.
Ah ouais.
Les années 20 à 29, l'art déco.
Des flamants roses.
Des flamants roses.
C'était déjà à la mode à l'époque.
Ah bah oui, tu peux mettre des flamants roses. Il y a beaucoup de couleurs, d'oiseaux, de
un
plumes.
Un petit peu plus pastel les couleurs qu'aujourd'hui.
Des dorures.
C'était un petit
c'était
doré.
Non, c'était plus soutenu, ouais. Doré, noir.
Oui, c'est ça.
Comme ici noir, ouais. Vert émeraude, etc.
Il n'y a pas de fluo, on va dire.
Un petit peu
pas...
Gatsby, le magnifique, quoi. Ça correspond tout à fait. Donc... voilà, et il ne faut pas manquer aussi, il y a une inspiration très asiatique. Donc, on a embarqué les kimonos en satin, alors souvent utilisés en robe d'intérieur, avec le foulard assorti dans les cheveux, des éventails, des ombrelles pour se cacher du soleil l'été. Et on retrouve les créateurs comme Georges Barbier à l'époque, qui étaient vraiment fascinés par toutes les techniques de tissage, les couleurs, les broderies, les motifs de phénix, de grues, de dragons. Ils ont ramené ça en fait en Europe et ça a eu une influence énorme. Donc on retrouve toutes ces inspirations et ces peintures dans des gazettes de l'époque, hein, comme lisait mon arrière-grand-mère. Hein, il y avait la guirlande des mois ou la gazette du bon ton qui a existé pendant très longtemps. Et ça te fait rire.
Mais il est encore abonné, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Il en a chez lui. Ouais.
Et donc les femmes s'inspiraient beaucoup de ça.
Donc. Non mais comment tu parles au chef quand même, là je percute.
Ouais c'est de 2020, je bouscule un peu quoi.
La nouvelle carreau est arrivée, ouais, c'est ouais. La rebelle.
Ah ouais.
Je t'ai interrompu, pardon.
Oh non, pas de soucis. Alors les années 20 c'est aussi une vraie révolution dans plusieurs domaines. On laisse les corsets et les perruques et tout ce qui va être très contraignant et qui arrivait de la vague 1900-1910. Donc on va favoriser les silhouettes longilignes pour les femmes, assez dégagées en haut. L'ensemble est hyper tombant, en fait la ligne est déplacée vers le bas, vers les hanches et surtout ceinturée au niveau des fesses, avec des jupes et des robes très très longues, seule la cheville est dégagée.
Oui mais à l'époque, le sein c'était pas terrible, il fallait pas qu'on voit les seins. Donc du coup, le corset peut-être pas, mais il y avait quand même quelque chose qui aplatissait un petit peu la poitrine.
Ah bah non,
pas
justement, parce qu'en fait, au niveau du haut, les sous-vêtements étaient très peu développés. Il y avait beaucoup de porte-jartelles, de bas, de choses comme ça, très travaillées.
Alors
en
peut-être
bas.
Dans la haute société, mais dans la société normale, il fallait être plate quand même, relativement, non, en 1920.
Bah pas spécialement plate, mais en fait, on pouvait se dégager, on pouvait porter des robes sans soutien-gorge, sans armature, etc. C'était possible, ouais.
D'accord.
Et surtout, il y avait une vie le soir qui n'était pas à la journée. Donc le soir, on se lâchait un peu plus et là, on pouvait se permettre de se dénuder, etc. Quoi. Donc voilà. Donc la cheville dégagée et une ligne qui descend vers le bas. Et c'est le début aussi du look garçon. La mode au niveau des cheveux, c'est hyper court ou est très cranté, très plaqué. Alors ça va être ce qu'on va appeler le flou de Zigane. On le voit d'ailleurs dans les Peaky Blinders, hein, c'est hyper intéressant avec Polly. On trouve très peu de chevelures longues et lâchées. Et les femmes peuvent porter le costume cravate.
Ah ouais ?
Ouais. Donc moi j'adore les Peaky Blinders et Polly elle le porte à un moment de manière très masculine avec
porter,
cravate.
Alors Polly pour moi
c'est
un poney qui va à Venise. Hein, donc,
non,
on n'a pas les mêmes filles.
C'est la tante matriarche dans Peaky Blinders.
Ah d'accord, ok. Okay.
Non mais vous ne pouvez pas parler des années 20 si vous n'avez pas vu Peaky Blinders là.
Ah bon ?
Personne n'a vu ?
Oui.
Ah si.
Non,
non.
Ah, les invités,
oh là là, y a un débat.
Les...
Non, ça a été réadapté, mais à la base, les Peaky Blinders sont vécus avant les années 20.
Ah ouais.
Mais
ah, c'est vrai.
Après, dans la série,
Oui.
Ils ont voulu représenter
c'est
les années 20.
C'est vrai qu'il y a eu le débat parce que beaucoup disaient qu'ils s'étaient pas vraiment inspirés, ils étaient pas fidèles, etc. Mais ouais, ils ont réadapté.
Après, l'histoire est géniale.
Oui, c'est ça.
Ça change rien.
Ouais,
à la
c'est
série.
Bien quand même.
Eh bien, merci Caro. Alors, les réalisateurs et scénaristes se sont souvent inspirés de cette époque pour écrire leurs films. On en parle tout de suite avec Olivier.
Eh ben, Olivier, t'as 30 secondes.
Alors, oui, je vous essaie.
Tu alors, règles tes comptes avec Caro.
Depuis 30-40 ans, il y a quand même des films qui se sont beaucoup inspirés des années 20, hein, qui traitent des années 20. Alors on retrouve souvent les mêmes thèmes. États-Unis, ça va être plus la prohibition, par exemple. Alors, Si je commence par la prohibition, justement, il y a deux films, alors notamment le chef-d'œuvre Il était une fois en Amérique, un film de 1984 de Sergio Leone. C'est une trilogie, hein, une fois dans l'Ouest, une fois en Amérique et une fois dans je ne sais plus quoi. La Révolution. La Révolution.
Une fois dans je ne sais plus quoi. Donc, c'est pas mal.
Sauf qu'il est beaucoup plus précis que Caro dans ses chroniques.
Hein. Non, c'est un film préféré avec Robert De Niro qui joue le rôle de Noodles, voilà, qui a vécu son adolescence dans les années 20 à New York.
Vous vous êtes inspiré là, vous pour,
Non. Moi, on ne s'est pas inspiré des films. Par contre, il y a un film qui m'a marqué. Je ne sais pas si vous l'avez marqué. C'est Des Hommes sans loi, qui est un très bon film, bah, très bien écrit avec des super acteurs sur des distilleurs, des moonshiners. Donc, c'est des gens qui distillaient pendant la pleine lune.
Ah,
et on appelle ça des moonshiners. Voilà.
Moonshiners. Okay. Très bien. J'ai sélectionné aussi un film de Francis Ford Coppola qui se passe à New York, à Harlem. C'est Cotton Club. C'est un film musical qui se passe dans un club pendant la Prohibition à Harlem, à New York. Donc là, c'est pareil, c'était un bar où bah, ça donnait au plaisir interdit la PEG, les politiciens, les stars. Voilà. Il y a aussi, c'est avec Richard Gere qu'on retrouve dans le film Chicago de Rob Marshall, ouais, qui est une comédie musicale
qui
aussi.
Qui est passé il n'y a pas longtemps,
oui,
là, sur Arte.
Il n'y a pas longtemps, exactement.
Génial.
Donc là, on suit Roxy Hart et Velma Kelly, ces deux tueuses de mari, en fait, qui, grâce aux médias, vont se retrouver sur scène, carrément, quoi, à faire des spectacles de jazz. Le jazz, c'est la grande mode dans les années 20 à New York, aux États-Unis, et ça viendra même en France, grâce notamment à Joséphine Baker. Il y a aussi un film très très ancien dans les années 50, c'est Certains l'aiment chaud, voilà, avec la mythique Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, ça se passe dans les années 20, toujours un peu à Chicago aussi. À New York, bien sûr, on peut toujours mentionner l'éternel Gatsby le Magnifique. Donc il y a eu deux versions, il y a eu la version avec Robert Redford et Mia Farrow en 1974, et puis la version plus récente, là, ça a 5-6 ans, avec la star DiCaprio.
C'est pas mal, ça, c'est bien, ça, ce film.
Voilà, un film de Baz Luhrmann, qui était très, 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 très intéressant. Je vais aller vite. Hein. Sinon, dans le milieu français, alors les années 20 à Paris, c'est là où la France peut-être a le plus brillé culturellement au XXe siècle. On l'appelait même le quartier de Montparnasse le nombril du monde, tellement il y avait d'artistes au mètre carré. Donc il y a un film qui traite ça, c'est de Minuit à Paris, le film de Woody Allen, donc où on suit un scénariste au XXIe siècle qui se retrouve propulsé dans les années 20 à Paris et qui rencontre notamment Marion Cotillard, enfin dans le film. Donc là ils vont rencontrer Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald, Pablo Picasso, Salvatore Dali, Buñuel, Man Ray, le photographe, et tout ça en rencontrant notamment Gertrude Stein. Gertrude Stein, en fait, c'était une écrivain poétesse, mais surtout une collectionneuse de tableaux. Et c'est elle qui a acheté beaucoup de tableaux, notamment de Picasso. Et c'est elle qui a fait connaître le cubisme au tout Paris.
Voilà. Okay.
Et elle faisait un salon au 27 rue de Fleurus. Ça, c'était une mécène artiste, en fait. Alors, ce qui est marrant dans ce film, c'est que Marion Cotillard, donc, elle vit dans les années 20, mais elle n'aime pas les années 20. Elle préfère la Belle Époque. Donc,
d'accord.
À un moment donné, ils vont dans la Belle Époque. Et là, ils retrouvent Toulouse-Lautrec, Gauguin, Edgar Degas. Et quand ils discutent avec ces peintres, eux, ben, ils n'aiment pas la Belle Époque. Ils préfèrent la Renaissance. Donc, en fait, on est toujours nostalgique d'une autre époque.
Voilà. Il est bien fait, ce film.
C'est un peu la philosophie du film, quoi. Voilà pour.
Eh bien, merci. Chronique. Qu'est-ce que c'est documenté ce soir, vos chroniques? C'est vraiment super. Enfin, comme d'habitude d'ailleurs. Voilà, je le précise quand même.
Alors,
on va évoquer maintenant l'univers de la cuisine avec Karine.
Donc t'as ton jingle aussi qui...
Il ne change pas, mais c'est pas grave. Alors en effet, donc moi dans la continuité d'Olivier, je vais aller au-delà des années 20, mais dans le domaine du cinéma. Pas forcément culinaire, mais bon, tu vas comprendre, Raphaël, il n'y a pas de souci.
Oui, oui.
Donc en fait, ma chronique, je n'ai pas pu l'adapter pour ce soir, mais elle va être quand même adaptée pour ce soir, parce qu'on a un petit peu tout type de génération. Vous allez comprendre de suite. Donc les recherches montrent que les personnes... qui mangent régulièrement des repas préparés à la maison ont tendance à être plus heureuses et en meilleure santé et à consommer moins de sucre et d'aliments transformés. Petite parenthèse, hein, c'était pas dans les années 20 qu'on avait poulet transformé, mais c'est bien après-guerre avec l'industrialisation. Donc on oublie ce que c'est aparté. Ce qui peut entraîner donc deux niveaux d'énergie plus élevés et une meilleure santé mentale, ce qui fait qu'à l'époque, ils n'avaient pas besoin de médicaments parce qu'ils allaient bien. Ils ne mangeaient pas transformés comme aujourd'hui. Alors, quoi de mieux que de cuisiner soi-même en s'inspirant de l'univers de nos héros pour prolonger le plaisir de nos séries terminées visuellement et gustativement. Donc voilà, on n'est pas dans les années 20, mais pourquoi faire comme tout le monde? Donc imaginez-vous assister à un banquet à Poudlard.
Ah oui.
Et Poudlard, c'était quand? À quelle époque? Un monde parallèle? Une époque différente?
Bah oui.
De déjeuner ou à Port-Réal ou encore à Dorne? De nombreux livres de recettes vous permettent de mettre à votre table les plats inspirés de vos films et séries préférées. Donc, je vous ai présenté un indice sonore, une sélection de quelques ouvrages, des recettes inspirées du petit et du grand écran. À vous de le trouver à chaque fois à quoi correspond cet indice.
Allez. Allez.
Sonore, ouais, c'est parti. Indice.
Oh bah ça va, c'est facile.
Harry Potter.
Ouais. Faut trouver...
Oui, c'est
pas écouté.
C'est Harry Potter. Donc, il y a de la bouffe Harry Potter, mais ça doit être des crapauds, des machins, ça doit pas être terrible.
Les bonbons, là, non?
Et non, donc en effet, à chaque fois, c'est un indice sonore, c'est un extrait sonore qui va donner en fait la thématique de la série ou du film en question sur lequel l'ouvrage a été modifié ou transformé en recette culinaire. C'est bien, vous suivez les films.
Ah, si, moi, j'ai compris.
Mais si, des recettes qui ont rapport avec Harry Potter.
Alors, donne-nous la réponse, on va comprendre.
En effet, c'est bien Harry Potter, donc manuel non officiel de cuisine pour sorciers et non magiciens. Donc, plongez à nouveau dans l'univers magique de notre sorcier préféré. Désormais, c'est vous. L'elfe de maison derrière les fourneaux, il ne tient qu'à vous de réaliser tarte à la mélasse, jus de citrouille, bière au beurre, confiserie,
bière au beurre, c'est une idée hein, de cocktail, hein, vous notez. Hein.
Et tant d'autres spécialités à base de crapauds, comme tu dis, Olivier. Donc voilà, où ce livre vous permet de vous transporter dans une autre dimension.
Et ça a des effets positifs.
Bah écoute, on essaiera.
Ouais, voilà. Aphrodisiaque. Tu vomis surtout.
Extrait numéro 2.
C'est fertilisant.
Attention, enfin, découvrez ce film.
Game of Thrones.
Qu'est-ce qu'on mange à Game of Thrones?
Une série, donc on est fait le livre des festins, Game of Thrones, mon chouchou.
Des ragoûts.
Commencez votre voyage à Westeros. Ici, plus de 100 recettes n'attendent plus que vous pour prendre vie. Bacon, œufs durs et miche de pain sont le petit déjeuner pris par les hommes de la garde de nuit. Et oui.
Ah oui,
la truite au lard est très appréciée à Outjardin. Et tandis que Port-Réal cultive un talent certain pour les pâtisseries, notamment le gâteau au citron tant aimé de Sansa. Et près de Dorne, vous pourrez déguster de la purée de pois chiches, un poil plus exotique. Donc les recettes sont rangées dans des rubriques du nord, ouest, sud et est. C'est assez original.
Il y a des moules frites aussi à Winterfell.
Mais en fait, on se rend pas vraiment compte de ce qu'ils mangent. Hein,
Pourquoi tu dis ça?
Sérieusement,
c'est dans le nord.
Quand on y pense, on se rend pas vraiment compte de ce qu'ils mangent dans la série.
Ouais,
non,
c'est vrai, ouais.
Non, il se tue, c'est tout. Mais...
Donc celui...
Si, il y a le petit gros qui fait du pain, là.
Ouais,
si,
vite fait.
Un pain ou une tourte ou je sais pas quoi.
Des tourtes.
C'est possible.
Une tourte, ouais.
Ah, nos invités, ils sont OK.
Alors là, il n'y aura pas d'indice sonore, mais c'est juste, vous avez aussi le livre Gastronogeek, en fait. C'est Thibaut Villanova, en fait. C'est un geek qui le revendique. Mais il est surtout cuisinier de profession et ne pouvait pas aller... Enfin, il ne pouvait pas ne pas aller ses deux passions. Donc, il a fait 42 recettes de cuisine. Sorti donc de films cultes, dessins animés de notre enfance et de séries. Donc en fait, il a fait une compilation de recettes en passant par le Hobbit, Hellboy, Harry Potter ou encore Dragon Ball Z.
Ok, donc, film suivant.
Autre film.
Ah bah oui.
Star Wars, ça je connais.
Bon, qu'est-ce qu'on mange dans la galaxie?
Alors, donc pour explorer la guerre des étoiles en voyageant à travers la galaxie avec l'inspiration de 40 recettes des différentes planètes de Star Wars, que la force soit avec vous. Donc des recettes relativement cohérentes avec l'univers de cette saga et originale. Donc ce livre se trouve sous le nom de Star Wars Cantina.
D'accord, à découper au laser alors.
Exactement. Mais apparemment, ça reste assez cohérent. Hein,
bon.
Ah ouais.
Autre indice.
Je connais Chewbacca.
Oh, c'est plus dur ça. C'est dur ça. Alors c'est quoi?
Un indice, un Sonia, tu vas trouver, je suis sûre.
La leçon
romantique.
Non.
Non.
Hannibal.
Oui, c'est ça. Donc, c'est...
Hannibal le cannibale.
Non, bah donc oui, justement. Donc,
exactement, c'est bien le silence des agneaux. Ah, oui. Donc, Feeling Hannibal.
Donc, on mange des agneaux, c'est ça?
Pas vraiment, en fait. Pour les amoureux de la viande.
Des
ça peut donner des idées pour le bar si demain vous voulez faire des collations accompagnées des cocktails.
C'est pas la viande au goût de chair humaine.
Vous mettez dans la. Non.
Non, parce que j'avais parlé de ça une fois, vous vous souvenez pas? J'avais parlé de la viande burger à la chair humaine.
Si, il y a entre autres, mais tu peux remplacer avec autre chose.
Ah ouais, bah faudra écouter le podcast mais oui, de l'émission.
Alors, petite parenthèse, la chair humaine ressemble à du poulet, donc je pense que c'est pas si mal que
ah
ça.
Ah bon, ça ressemble pas à du porc.
On a pas de la viande blanche, nous.
Ça dépend qui.
La viande humaine.
Ça dépend où.
Ah, ça ressemble à du poulet.
Ah bon, ouais. Je sais pas.
Ah bon. Donc, si un jour vous avez un crash d'avion et que vous devez survivre, ne vous bloquez pas à manger votre voisin qui est mort, quoi.
Okay.
Petite parenthèse, donc mettez-vous dans la peau du docteur psychopathe Hannibal Lecter et cuisinez vous-même ces petits plats dont il a le secret, donc tartelettes au tartare de cœur. Poumons et reins à la sauce et au vin rouge. Donc n'oubliez pas de remplacer la viande humaine, Manu, bien sûr, ou pas, mais on vous rappelle quand même que c'est pas légal.
Merci.
Autre extrait, ouais.
Walking Dead.
J'adore les accents de Raph pour parler de Game of Thrones ou de Walking Dead. Exactement, c'est bien ça. Alors, vous n'allez pas manger des zombies décomposés, en fait. Vous êtes immergé dans la série de zombies préférés, donc Walking Dead, bien évidemment, en tentant de survivre avec les moyens du bord. Donc, plus de 150 recettes d'une simplicité enfantine vous attendent. Ainsi, vous aurez un petit aperçu de ce que peuvent manger Rick, Daryl et toute la team dans une telle situation de précarité.
Ok, indice suivant. C'est une série, ça.
Breaking Bad.
Oui, c'est bien.
Il regarde sur ma feuille.
Pas du tout.
Non, un tricheur.
Donc exactement Breaking Bad. Donc vous pouvez aussi devenir un baron de la drogue culinaire en revisitant certaines recettes de la série. Vous connaissez autour de la table ou pas?
Oui. Du poulet frit. Los Pollos. Non.
Ah oui, c'est ça.
Le poulet Los Pollos, là, le méchant qui a une chaîne de poulet.
Alors non, même pas, non, parce qu'en fait, là, on est plutôt sur la pâtisserie. Alors, on ne va pas cuisiner du cristal, hein. On oublie ça, ni de la mettre. Voilà, c'est vraiment des ingrédients comestibles pour faire des cupcakes, donuts et autres. Donc vraiment du typique américain. Et voilà.
Et voilà.
Que nous a réservé Bruno pour sa rubrique Nouvelle Technologie? La réponse tout de suite. I love her, can't leave her, forever I always need her. She lied, but I believe her. Love sick, I got that fever. Love stupid, I know it. Love stupid, I know it. I know cause I'm a fool in love.
Alors, on va donc parler de nouvelles technologies avec des inventions des années 20 qui sont... Ben, pour nous, c'est banal maintenant, mais voilà, ça n'existait pas avant les années 20.
Oui, alors ma question, c'était des années 1920.
Oui, c'est ça. Par exemple, en 1920, on invente l'agriculture bio.
Ouais.
Eh ouais, c'est étonnant. Hein.
Alors, parce qu'avant, c'était quoi?
Eh ben avant, on réinvente parce qu'avant, apparemment, c'était pas bio. Donc déjà, il y avait des insecticides, il y avait déjà des choses. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que c'était bon à manger, etc. Mais voilà, déjà en 1920...
Il n'y avait pas de quoi nourrir tout le monde.
C'était pas bio. Mais apparemment, le mot bio est inventé dans ces années-là.
C'est
ouais. En 1921, on invente un truc bien pratique. Je vais essayer de le faire façon pyramide. Hein, t'aimes bien? Alors attention, en quatre mots. Vélo.
Oui.
Appartement. Vélo d'appartement.
Alors voilà. Alors on parle de sport tout de suite, c'est appartement.
Oh,
Tour de France.
Ah non.
Tour de France.
Pardon.
Non. Pneu.
Michelin. Bah, roue.
Michelin. Non.
Ah ouais.
Non.
Michelin.
Crevaison.
Crevaison.
La rustine.
Ouais.
Oui, la rustine inventée donc en 1921 par Louis Rustin. D'où le nom Rustine évidemment. D'accord. Une marque maintenant, toujours en 1921, on se demande pourquoi elle rit.
La vache.
Eh ouais, la vache qui rit effectivement. Eh ouais, ça date de
1920.
1921. Toujours dans les jeux de la bouche, je suis une invention américaine de 1922. Swing je suis Swing froid up. Et j'adore me faire sucer.
Bah, ah, le Mr. Freeze.
Mr.
Freeze.
Non.
Oui,
j'ai le nom d'un peuple du Nord.
Et Esquimaux.
Eh oui, les Esquimaux, effectivement. Ça date de 1922. Vous avez l'esprit déplacé, messieurs. Non, je trouve que vous avez l'esprit déplacé, je ne comprends pas. 1923, on a l'autoradio qui apparaît, le cadran téléphonique, le batteur électrique, les feux tricolores, mais aussi la télévision qui apparaît également, inventée par un Écossais. Alors, ce n'est pas encore chez tout le monde, hein, c'est juste le dépôt du brevet. En 1924, une marque célèbre voit le jour. Elle propose du papier. Elle accompagne les adolescents dans leur sexualité.
Le papier toilette?
Non. Ah, ça pourrait,
dans
mais...
la sexualité. Les mouchoirs Kleenex?
Oui. On voit tout de suite les références de Caro.
Dans la sexualité, mais pourquoi?
Non, rien.
Quand ils se font larguer?
Et voilà, c'est ça. Ben, ça, c'est les filles, ça, c'est effectivement. Ça. En 1924, on a les télécopieurs, le photomaton, qui date de 1924, le plexiglas et la congélation. En 25, encore une marque célèbre qui se déroule, formée d'une fine bande de plastique. Elle a la particularité d'être collante sur une face.
Le scotch.
Le scotch, effectivement. En 1927, on invente l'horloge à quartz.
Ah, quand même.
Eh ouais, voilà. Avant, c'était que mécanique. En 1928, la télé prend de la couleur, mais toujours, c'est le dépôt de brevet. Le pain mis en tranche, le pain de mie en tranche, eh bien, ça date que de 1928. Ouais, ça n'existait pas avant. Voilà donc pour les années 20. Et si on regardait maintenant...
Ouais, c'est subtil.
Ouais, c'est subtil. Bah, on n'arrivait pas à couper avant. C'était des miches qui étaient vendues. On a inventé les miches coupées.
Mais les couteaux existaient à l'époque.
Oui, tout à fait. Mais on ne vendait pas dans les boulangeries le pain coupé.
Une subtilité.
Eh oui. Voilà. Et on rappelle donc que la chute de l'humanité est prévue pour 2030. Hein, donc, bah, profitez bien des années 2030.
Ouais, encore une décennie devant nous, quoi.
Voilà.
Ça fait flipper.
Merci Bruno et merci à vous, hein, chroniqueurs, d'avoir préparé cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Stéphane, Nicolas et François de nous avoir accueillis dans leur magnifique lieu, le Garry's Bar. Vous pouvez réécouter cette émission à tout moment en podcast. Retrouvez le lien sur les comptes Facebook, Twitter et Instagram de l'émission, tout comme la belle photo de l'émission du jour. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Bonne soirée.
Salut.